Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. La présentation Hawa Maman. Le monde célèbre ce jour la journée de lutte contre le cancer. Elle est placée cette année sous le thème « Sensibiliser les populations sur les facteurs de risque ». La faim a régressé au Niger de 42%, c'est ce qui ressort du rapport de l'indice de la faim dans le monde présenté ce matin par l'ONG Weight and Job à ILF. Le magazine de ce jour porte sur le faible poids des bébés à la naissance. Selon les médecins, ce sont les femmes enceintes en mauvais état nutritionnel ou vivant avec certaines maladies chroniques qui sont les plus concernées. Sensibiliser les populations sur les facteurs de risque. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le cancer célébré ce jour, notre reporter a rencontré ce matin Moussa Mariama, malade du cancer du sein, qui vient de finir sa radiothérapie. Soutenue par son époux, cette femme âgée de 60 ans raconte sa maladie et son traitement. Moussa Mariama, interrogé par Diallo Mariama Kenda.
C'était en 2017, du mois de Ramadan. En me couchant, j'ai tâtonné mes seins et j'ai senti une petite boule. Aussitôt le matin, je me suis dirigée vers le docteur Boulay qui me suit jusqu'à présent. J'ai fait des examens et approfondis et on m'a enlevé l'odule, je vous jure. Quand j'avais rapporté la réponse, j'avais versé des larmes en disant « je suis foutue ». Et elle m'a orientée pour faire la chimio que j'ai suivie pendant 6 mois, une période difficile. C'est le traitement le plus difficile parce que tous les cheveux s'en vont, les vomissements, le teint devient très noir pour faire la chimio. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut peut-être pour faire une chimio toutes les 3 semaines, au minimum, je peux dire, 100 à 150 000 pour les produits. Voilà pourquoi, avant la fin de la chimio, certains peuvent même mourir. Mon ami intime et mon mari qui m'ont supporté, puis surtout mon mari, il m'a beaucoup aidé. C'est que j'aimerais encourager les femmes à venir faire leur dépistage à temps.
Le rapport de l'indice de la faim dans le monde 2019 a été présenté ce matin à Niamey par l'ONG allemande Weight and Job ILF sous le thème « Les défis de la faim et du changement climatique dans le monde et au Niger ». Selon le directeur pays de cette ONG, la faim a régressé de 42% au Niger, mais beaucoup reste à faire. Francis Djomega est au micro de Assoumana China.
Par rapport aux 20 dernières années, le Niger a fait une réduction de 42% de la faim de sa population. En même temps, il faut reconnaître que même si cet effort-là est louable, beaucoup de travail reste à tous les niveaux, que ce soit au niveau des politiques et stratégies de l'État, qui ont montré leur preuve, mais aussi au niveau des ONG, des organisations de la société civile, etc. Il faut une meilleure coordination, mais aussi un financement efficace pour lutter de façon sérieuse contre la faim dans le monde. La situation, c'est que le rythme est trop lent.
Le thème est lié avec les changements climatiques, pourquoi ?
Mais absolument, absolument, parce que le changement climatique, au même titre d'ailleurs que la sécurité ou l'insécurité, sont des facteurs aggravants. C'est-à-dire que au moment où il y a des catastrophes, que ce soit sécheresse, inondation, eh bien cela impacte négativement les moyens de production et les populations. Les jettent dans la rue sans rien. Et naturellement, ça a une implication sur les récoltes et partant la hausse des prix et donc la pauvreté des gens.
Après la zone 1, la Commission électorale nationale indépendante CENI s'apprête à entamer l'enrôlement des électeurs de la zone 2, Niamey Maradi Zender Diffa. Selon le président de cette institution, la biométrie nouvellement inscrite dans le processus électoral est un véritable défi. On écoute Maître Souna Issaka au micro d'Olivier Assogbavi.
La liste électorale est un produit nouveau dans l'espace électoral nigérien. Cette biométrie appliquée aux élections est un défi dans la mesure où c'est une innovation technique. C'est pour les électeurs classiques une innovation significative. C'est pour la CENI un défi de pouvoir procéder pour la première fois à la mise en place du premier fichier biométrique. Bien sûr, nous avons essayé une première zone composée de 4 régions du pays sur les 8. Ensuite, de quoi nous procédons, nous sommes en train de préparer au déploiement des équipes et du matériel vers la zone 2. Mais avant là, nous essayons de tirer avantage de toutes les difficultés rencontrées, de redresser toutes les erreurs et d'éviter tout ce qui a pu rendre moins efficace la première action. Il y a des zones d'insécurité. Dans ces zones, des mesures particulières ont été prises.
Dans le même ordre d'idées, la Commission électorale nationale indépendante a organisé ce matin à Maradi une rencontre d'installation et de formation des membres de commissions administratives des communes. Cette formation coïncide avec le démarrage des opérations d'enrôlement biométrique de la zone 2 dans la même localité. Pour le rapporteur général de la CENI, Nafi Ouada, toutes les mesures organisationnelles comme sécuritaires sont prises pour un bon déroulement de l'opération à Maradi. Il est au micro de Mohamed Mama.
Les rôles qu'elles vont jouer, elles vont faciliter la tâche, l'accueil du personnel, l'accueil du matériel qui seront dans leur commune. Elles vont vérifier les villages parmi les communes qui s'imbriquent, qui se chevauchent. Nous allons parler de l'espace public de leur commune. Donc s'il y a des suggestions, ils nous feront des suggestions et nous prendrons compte de ces suggestions pour pouvoir corriger et améliorer pour entamer l'enrôlement à la date du 8.
Vous avez fini la phase 1, il y a eu des problèmes. Est-ce que des dispositions ont été prises pour que la zone 2 ne connaisse pas ces problèmes?
Nous avons déjà pallié certaines. Vous constatez, les opérateurs sont dans la ville de Maradi, mais il n'y a pas un grand bruit comme à la zone numéro 1, à Dosso, à Tawa. Nous allons aborder Tifa, qui est un casse-tête concernant la sécurité et une partie des maladies telles que Madarumfa et Gidarumji. Mais les dispositions d'ordre sécuritaire n'ont pas besoin de communication, elles ont besoin de l'application sur le terrain.
L'association de solidarité franco-nigérienne Asofrani a lancé le dimanche passé les travaux de construction d'un puits dans le village de Gungobon dans le département de Kolo, région de Tillabéri, d'une valeur de 3 400 €, soit un peu plus de 2 200 000 francs CFA. Ce puits facilitera l'accès à l'eau à plus d'un millier de personnes. Selon le secrétaire et cofondateur de cette association, ce puits n'est pas le premier mis à la disposition des populations du Niger. Pascal Delamar au micro de Michel Dedji.
C'est un puits qui va desservir à peu près 1000 habitants sur 3 villages. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'eau soit toujours en accès gratuit. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau, ils ont aussi le droit de boire. L'eau, c'est la vie. Nous, c'est facile, on tourne un robinet et puis l'eau coule. Donc, on ne se rend plus compte de l'importance de l'eau. Donc, nous, quand on fait un puits quelque part, les villageois s'engagent à laisser l'accès du puits libre à tout le monde. Alors, les retombées d'un puits sont multiples. Donc, l'eau est tellement précieuse qu'elle est réservée à la cuisine essentiellement. Alors qu'une fois qu'il y a un puits, l'eau va pouvoir servir à tout et à tout le monde. Aussi bien pour se laver, pour laver ses vêtements, pour faire pousser un potager, pour donner à boire aux animaux qui eux vont être plus robustes et donc vont pouvoir se multiplier plus vite. Et puis tout le monde sait que ce sont les femmes et les filles qui vont à la corvée d'eau. Si bien que des petites filles ne peuvent pas aller à l'école. Quand il y a un puits, elles peuvent aller à l'école. Donc c'est tout ça qui va changer dans leur vie.
La société chinoise Solux Water Exploitation Limited va bientôt rétrocéder son usine de production d'eau minérale de Zender à la dite région. L'accord d'entente a été conclu la semaine dernière à Niamey entre le conseil régional de Zender et Solux Water Exploitation Limited. Moutari Ousmane, président du conseil régional, au micro de Mustapha Mamansani.
Il y a eu des controverses relativement à l'exploitation d'eau minérale par Solux. En fait, les gens disaient que c'était Soraz, mais c'était pas Soraz. Nous avions pensé qu'elle n'avait même pas l'autorisation d'exploitation de l'eau. En réalité, elle l'avait. Maintenant, elle a fait toutes les autres démarches nécessaires, notamment l'étude d'impact environnemental et autres. Mais en raison de cette controverse-là, la société a décidé qu'elle veut quitter cette activité d'exploitation d'eau minérale pour remettre l'outil de production d'eau-là à l'État du Niger. Mais l'État du Niger a orienté Solux plutôt vers la région de Zender. Donc nous sommes réunis le mercredi au siège de Solux à Niamey donc pour nous mettre d'accord sur la procédure à suivre. Donc très bientôt, on va recevoir une délégation avec laquelle nous allons nous asseoir. D'abord pour faire l'état des lieux de cette société-là, quel est son état de marche, quelle est la perspective d'avenir dans l'exploitation et puis prendre les dispositions juridiques nécessaires pour que cette usine-là soit transférée à la région de Zender.
Depuis août 2019, c'est un rappel, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec le Niger et le Bénin. Malgré ce fait, les produits du Nigeria continuent d'envahir le marché du Niger, constate le secrétaire général des commerçants importateurs et exportateurs du Niger. Cheibou Tchombiano est joint au téléphone par Rukayetou Abdraman.
Ce que nous déplorons, le Nigeria dit que nos produits ne rentrent pas et les produits du Nigeria envahissent le Niger. À commencer par l'essence, les volailles, même les animaux sur pied, les jus, les sucreries, les biscuits, les bonbons. Un bon responsable, il doit empêcher à ces produits de déranger les industries du Niger. On devrait en tout cas s'asseoir pour qu'il y ait un cadre de concertation entre tous les acteurs. Pour voir dans quelle mesure nous allons émerger. Personne ne va pas croiser les bras pour attendre une frontière qui ne s'ouvre pas.
Pour détecter de nouveaux talents en lutte traditionnelle et garder sa suprématie sur les autres départements de la région du Dosso, la ville de Gaya organisera à partir de ce soir et pour une semaine une compétition à la Maison des Jeunes et de la Culture. 80 lutteurs vont compétir. La particularité, ces jeunes n'ont jamais pris part aux championnats nationaux. Les explications de Mustapha Adamou, directeur départemental de la jeunesse, au micro de Fadel Alou.
Ce tournoi de lutte traditionnelle là, c'est une façon pour nous d'occuper la jeunesse de Gaya. Ce lundi, nous allons commencer à les réunir au niveau de la Maison de la Culture pour faire de l'animation d'abord. Et dans deux ou trois jours, les compétitions proprement dites vont commencer. Certainement le mercredi, ça va commencer. Donc en faisant cette animation sportive au niveau de la Maison de la Culture, ça va nous permettre de donner une certaine lumière dans la tête de ces jeunes-là. Donc au moins à partir de 16h, ces jeunes-là sauront là où ils vont aller. Pas les jeunes seulement, même les adultes, pour savourer la technicité de certains jeunes. Et ce tournoi-là, ça va nous permettre également de voir les nouveaux talents. Gaya regorge beaucoup de techniciens en lutte. Donc ce tournoi-là s'adresse seulement aux jeunes qui n'ont pas participé à un championnat. Cette fois-ci, c'est vraiment la jeunesse qui nous intéresse.
Partie magazine, au Niger, le faible poids du bébé à la naissance serait l'une des causes majeures de la mortalité infantile. L'OMS classe dans la catégorie des nourrissons à faible poids tout nouveau-né, dont le poids est inférieur à 2,5 kg, quel que soit l'âge de la grossesse. L'enquête démographique et de santé du Niger de 2012 a relevé que 12% des nouveaux-nés dont on connaît le poids de naissance sont concernés. Selon les médecins, ce sont les femmes enceintes en mauvais état nutritionnel ou vivant avec certaines maladies chroniques qui ont le plus de risques de mettre au monde des enfants de petit poids. C'est ce qu'explique Dr Oumarou Zaratou, pédiatre néonatologiste au ministère de la Santé. Elle est interrogée par Rahilatou Soumana.
Cette fois-ci, on va parler du petit poids à la naissance. Qu'est-ce qui provoque un petit poids chez le nouveau-né?
D'abord, le petit poids de naissance, c'est un bébé qui a subi un retard de croissance dans le ventre de la mère. Ça veut dire qu'il est né à terme, mais il n'a pas le poids idéal pour son terme. Un poids inférieur à 2,5 kg.
Et qu'est-ce qui provoque cela?
Il y a plusieurs causes. Par exemple, une femme qui a une tension artérielle pendant la grossesse. Une femme qui a une maladie chronique comme un problème de rein. Vous savez que le fœtus reçoit tous les nutriments du placenta de sa mère à travers le cordon ombilical. S'il y a un problème vasculaire comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, ces échanges entre la mère et le fœtus se font mal et le bébé ne reçoit pas assez de sang, assez de nutrition. Donc ça ne va pas lui permettre de grossir. La mère, si elle ne s'alimente pas bien, le bébé ne va pas avoir un retard de croissance. Il y a l'anémie. La mère n'a pas assez de sang pour elle-même, à plus forte raison en donner à son fœtus. Donc le fœtus va recevoir peu, il va naître avec un petit poids.
Et donc celui-ci, comment il est pris en charge?
Il est pris en charge presque de la même façon que le prématuré. Il n'a pas de réserve, donc on le prend en charge dès la naissance. On lutte contre l'hypothermie, il ne faut pas qu'il prenne froid. On lutte contre l'hypoglycémie en le mettant rapidement au sein et on prend des mesures d'hygiène avant de le manipuler.
Est-ce que ce bébé à petit poids pourrait rattraper son poids en grandissant?
Tout dépend vraiment du degré de ce retard de croissance qu'ils ont eu dans le ventre. Il y en a vraiment qui récupèrent très tôt, mais si c'est un retard sévère, il y a des difficultés à rattraper ce retard. Moi, je connais un enfant. Maintenant, il doit avoir 15-16 ans. Jusqu'à présent, il a son retard de croissance.
Comment ça se manifeste?
C'est un enfant qui est maigre, mais il se développe. Il grossit pas, les membres sont grêles, la tête paraît plus grosse que le reste du corps, mais il se sent bien.
Est-ce qu'il y a des séquelles au niveau de la tête?
Tous les gestes qu'on va faire c'est pour éviter qu'il ait des séquelles au niveau neurologique. Le fait de l'allaiter au sein est bon pour le cerveau. Le fait de lutter contre l'hypothermie, quand il a froid, le cerveau prend un coup, c'est pas bon. Et vous savez que les cellules du cerveau, quand elles se détruisent, ce sont une destruction irréversible. Donc par des mesures qu'on prend dès la naissance, on sait comment éviter.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.